Hello, Mortimer! Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous
merci.
Parlerez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillant numéro 10.
Captivant, présenté par Marc Dacier et Sullivan.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
C'est une émission véritablement spéciale que nous vous proposons ce soir. Dans quelques minutes, nous accueillerons un invité exceptionnel, Roger Carrel. Cet acteur de théâtre, de cinéma et de télévision est la légende vivante de la post-synchronisation. Spécialiste du doublage de dessins animés, il est depuis 1967 la voix d'Astérix, le personnage de Goscinny et Uderzo.
Alors comme ça, tu es un champion olympique. C'est intéressant ça. Nous nous faisons des jeux dans le village aussi. Mais évidemment, comme nous buvons tous de la potion magique, ce n'est pas très palpitant. Tu m'écoutes quand je parle ? Bon, je disais que ce n'est pas très palpitant, parce qu'on arrive tous en même temps et on doit tirer le gagnant au sort. Remarque-moi, je n'ai pas besoin de boire de la potion magique pour courir. J'ai toujours été très rapide pour la course. Eh ben, tu n'es pas très causant, dis donc. Hey ! Attends-moi ! Je crois que je vais tout de même boire un petit coup de potion magique. L'avenir du village est en jeu après tout.
Pour des dessins animés télévisés, des feuilletons radiophoniques ou des disques micro-sillons, Roger Carrel a également interprété Milou, ou l'un des Dupont et Dupont, Jolly Jumper, ou le Baba de Barbe Rouge, le professeur Miloc de Blake et Mortimer, et même Mister Fantastique.
Captivant vous propose donc ce soir une rencontre avec un grand monsieur, sympathique, généreux et enthousiaste, qui a sa place dans l'histoire de la BD.
Avant que le ciel nous tombe sur la tête, faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres, eux, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là.
C'était des primitifs, ils n'avaient rien d'autre pour se distraire. Nous, nous avons la danse des canards.
Allons-y. Nos ancêtres, les Gaulois, prirent la pile à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour dire les Gaulois.
Ce truc-là, qui se vendait la pipe à tout de bois.
Avant que le ciel.
Dites-moi à propos de tabac, ils nous ont laissé des Gauloises bien roulées.
Allons-y, nos ancêtres, les Gaulois, eurent le don d'être grand-papa. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tcha-tcha gaulois.
Dites-moi, si nous parlons sérieusement là, hein, cette chanson, hein, a entre nous. Pour une couillonnade, c'est une couillonnade.
Captivant, le magazine de la bande dessinée sur RVE vous propose ce soir une émission spéciale consacrée à Roger Carrel, un acteur qui a prêté sa voix à de nombreux personnages de BD, par exemple le professeur Miloc dans une adaptation radiophonique de SOS Météor.
Bonsoir messieurs, on m'a annoncé votre visite.
Professeur Miloc, je vous présente un visiteur de marque, le professeur Mortimer de Londres, en résidence au château. Pour très peu de temps, hélas.
Très honoré, cher confrère. Je connais vos travaux.
Ah, vraiment?
Naturellement.
Cependant, je crois devoir vous dire que le professeur Mortimer nourrit des doutes offensants à l'endroit de notre puissance scientifique.
Rien de plus facile que de les dissiper.
Oh, c'est à voir.
Mais c'est tout vu, professeur. Venez.
Oh, cette odeur!
De l'ozone, cher professeur. De l'ozone. Mais entrez, je vous prie.
Oh, par exemple!
Oui, il y a de quoi être surpris, n'est-ce pas?
Roger Carrel, bonsoir et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Votre vrai nom est Roger Blancharel, vous êtes originaire du Cantal, mais vous êtes né à Paris en 1927. Jeune, vous vous destiniez à la prêtrise avant de découvrir votre véritable vocation, le métier de comédien. Après le cours Simon, vous débutez au théâtre en 1949 à l'âge de 22 ans. L'année suivante, vous intégrez une troupe, la compagnie Grenier-Husneau, dans laquelle vous passez 7 ans. Est-il vrai que vous avez joué 1500 représentations de la pièce « L'amour des quatre colonels » pendant cette période ?
Oui, j'ai eu le bonheur de jouer. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, vous savez, dans les pièces que j'ai pu jouer au théâtre. En général, ce sont des pièces qui duraient longtemps, mais celle-ci particulièrement longtemps, puisqu'elle a fait 1500 représentations, et c'est là que j'ai eu le bonheur de connaître tous mes copains, Marielle, Rochefort, Virelejeu, toute la bande de la compagnie Grenier-Husneau à l'époque, George Wilson. Il y avait vraiment beaucoup de monde, et c'était un bonheur. À ce moment-là, parce que vous savez, faire partie d'une troupe à cette époque, il y avait Barrault, il y avait Fabry, il y avait Vidali, il y avait les Banquignols, il y avait toutes ces troupes, et c'était un bonheur parce que c'était des familles. On se voyait depuis 9h le matin, la plupart du temps, parce que quand on jouait une pièce, on préparait celle qui allait suivre, parce que c'était une compagnie, donc on savait qu'on allait continuer à rester dans cette famille. Et donc c'était un bonheur de se retrouver dès 9 ou 10 heures du matin, parce que souvent on assurait à ce moment-là tous les feuilletons radio de l'époque, on assurait les débuts de la télévision, c'est-à-dire qu'on vivait carrément ensemble. Et on avait, vous ne vous en souvenez pas parce que vous êtes jeune, il y avait des cabarets. Il y avait des cabarets littéraires à l'époque. Moi, j'étais chez les frères Jacques et Pierre Prévert, la Fontaine des Quatre Saisons à Saint-Germain-des-Prés, où il y avait la Rose Rouge, il y avait tous ces cabarets. Donc, on ne se quittait pas de 9h du matin à 3h du matin. Alors, c'est vous dire qu'on dormait à peu près 4h par nuit à cette époque-là, mais c'était un bonheur.
Roger Carrel, on vous a vu à l'écran dans une bonne cinquantaine de films. Vous êtes l'un de ces grands seconds rôles si indispensables au cinéma français. La liste des réalisateurs pour lesquels vous avez tourné est impressionnante. Jacques Pinotto, Robert Hossein, Christian Jacques, Claude Berry, Yves Robert, Michel Audiard, Claude Zidi, Philippe de Broca, Gérard Roury, Jean Becker, Bertrand Blier. Vos débuts au cinéma, vous les avez faits en 1952 dans Le Fils de Lagardère.
Ah bah écoutez, Le Fils de Lagardère, c'est tout à fait spécial parce que là, c'est une chose qu'a fait perdre d'ailleurs un jour une dame sur un jeu radiophonique que nous faisions, et on lui avait dit Roger Carrel a commencé sa carrière comme cascadeur, et elle a évidemment, il y avait un lot à gagner, et elle a dit non, je reconnais bien Roger Carrel, il a sûrement pas été cascadeur. Et bien là elle s'est trompée, car ce film là j'étais cascadeur tout à fait par hasard, parce que à ce moment là je faisais beaucoup d'escrime, j'étais donc chez Gardère et chez Maître Leblond, donc on était avec Biret, avec beaucoup de comédiens qui tiraient à l'épée à ce moment-là, et il y manquait plusieurs figurants, et surtout des cascadeurs pour le film italien qui se passait dans la Tour Saint-Jacques, ici à Paris, où il y avait des combats. Donc on nous a réglé des combats, et le maître d'armes a dit, écoutez, je vais vous coller dans les cascadeurs, on va se débrouiller, on va faire des combats qui, bon, vous allez être tués assez vite, mais bon, et on s'est arrangé comme ça. Et ce metteur en scène italien, a bien aimé ce qu'on a fait, effectivement. Moi, je sais que je mourrais sur les escaliers de la Tour Saint-Jacques après un duel, bon, qui durait 3-4 minutes, bien sûr. Et tout le monde avait terminé, et le maître Leblond dit à ce moment-là, est-ce que nos cascadeurs ont terminé ? Oui, tout le monde est là fini, sauf les petits. Alors, les petits, c'était moi, voyez-vous, parce que j'étais le plus petit, effectivement, c'était moi. Alors, il dit, ah bon, il a autre chose ? Oui, pourquoi ? J'ai prévu autre chose pour lui, un autre petit combat sur les bords de la Seine. Alors, dit, viens boire, il me dit, écoute, ça t'embête pas. Je dis, bon, bah écoute, je veux bien. Mais... Et ce combat sur les bords de la Seine, c'était comme jeter trois fois dans l'eau. Et on m'a jeté trois fois dans la Seine à l'époque.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Dans ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
Marc Dacier.
C'est l'heure de mes exercices pour ma ligne. 1, 2, 3. Main en l'air et main en bas, ça ouvre l'estomac. Au pas, tirez bien, ça vous donne très faim. Je ne veux pas, non, être athlétique, je suis trop petit. Mais après ma gymnastique, j'ai bon appétit. Oh oui, j'ai le ventre qui gargouille. Il est temps de manger.
Il prête sa voix depuis 1977 à Winnie l'ourson, mais aussi à ses compagnons Coco Lapin et Porcinet. Roger Carrel est notre invité ce soir pour une émission exceptionnelle. Roger, la télévision a été très importante dans votre carrière. On se souvient de vous dans le rôle de l'inspecteur Guerchard, qui traquait Arsène Lupin dans la série du début des années 70. On a l'impression que la télévision d'aujourd'hui est moins décontractée, moins libre que celle que vous avez connue. Qu'en pensez-vous ?
Vous savez, à l'époque, c'était des grandes séries, Schulmeister, Arsène Lupin, toutes ces grandes séries. On tournait ça à peu près dans le style des films. Donc, on tournait calme, si vous voulez bien. C'est-à-dire qu'on faisait nos 3 minutes par jour, 3-4 minutes. Et avec, alors là, il y avait énormément de figurations. Il y avait des plans avec des chevaux, des calèches, de tout ce qu'on voulait. Donc, il fallait absolument donner l'impression de grands films. Et c'était très agréable. Même dans Arsène Lupin, on prenait beaucoup de temps pour tourner ces films. Et Dieu sait si ça a duré plusieurs années. Donc, c'était pour moi un bonheur de faire ce genre de série. Mais effectivement, maintenant, on est un peu pris par le temps, un peu pris par l'argent, ce qui fait que, écoutez, les gens écrivent du texte. On fait des séries où il y a le moins possible de personnages, sauf ce qu'on appelle les séries de prestige qu'on fait de temps en temps. Mais avant, on faisait toujours des séries de prestige. Moi, j'ai tourné un Don Quichotte en Espagne, où il y avait 13 épisodes, je me souviens, mais avec un acteur autrichien superbe, Meinrad, qui était du Burgtheater, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de figurations. On a fait un Don Quichotte magnifique à l'époque. Malheureusement, on l'a tourné à l'époque en noir et blanc, ce qui a été une erreur, sans ça y est. Il repassera encore.
Roger Carrel, vous êtes depuis 50 ans un des grands seconds rôles du cinéma et de la télévision, mais vous êtes aussi la légende du doublage, de la post-synchronisation. Le premier acteur à qui vous avez prêté votre voix était Peter Lorre. C'était en 1959 pour le film La Belle de Moscou. Cette première expérience vous a-t-elle tout de suite plu ?
Oui, c'est-à-dire qu'on est venu, vous savez, ça fait vraiment, le doublage fait maintenant partie du métier d'acteur, vraiment à plein temps. On voit bien que maintenant tout le monde fait du doublage, surtout même les superstars ont envie de venir doubler des personnages, ce qui est tout le monde à bien, en fin de compte, tout le monde aime bien ça. Mais oui, c'était ma première expérience, parce que j'étais au théâtre à ce moment-là, et c'est vraiment quelqu'un qui est venu à la fin du spectacle me dire, bon écoutez, je vous ai vu dans la pièce, est-ce que ça vous ferait plaisir de faire du doublage ? J'ai dit, pourquoi pas, moi ça fait partie du métier de comédien, comme la radio, comme la télévision, comme le cinéma, comme tout le reste. Et je suis allé faire cette première expérience, de doubler Peter Lorre, qui était un honneur, parce que c'est un acteur que Dave quand même avait déjà un certain renom, et puis il y a un film de Fred Astaire quand même. Alors, c'est une chose qui a été curieuse, parce que c'était pour moi le début du doublage, mais le doublage ne se faisait pas à l'époque comme il se fait maintenant, avec une bande rythmo. C'est-à-dire que on faisait ce qu'on appelle à l'image, c'est-à-dire qu'on avait ou le texte à la main, ou le texte apparaissait sur une petite lanterne magique, c'est-à-dire il y avait, comme on projette des diapos, on projetait les quelques répliques. Il fallait les apprendre à toute allure par cœur et les mettre et les placer nous-mêmes sur la bouche de l'acteur. C'était un peu compliqué parce qu'en plus c'était un son, évidemment c'était pas le numérique, hein, donc on pouvait même pas écouter ce qu'on avait fait à l'époque. Car c'était un son optique. Alors on ne pouvait même pas écouter ce qu'on avait fait. Il y avait que le monteur sur le plateau qui savait si on était bien en place, si le son allait, et l'ingénieur du son qui, dans son casque, savait si la prise était bonne. Mais c'était quand même une expérience assez savoureuse, et j'ai bien aimé quand la bande rythmo est arrivée, parce que ça a beaucoup, beaucoup facilité le travail de l'acteur.
Votre voix est inscrite de manière indélébile dans la mémoire de plusieurs générations de Français. Vous avez doublé le grand comédien anglais Peter Ustinov ou David Suchet, alias Hercule Poirot. Vous êtes la voix française de Kermit la Grenouille dans les Muppet Show, celle de l'extraterrestre Alf ou celle de C-3PO, le robot majordome de Star Wars.
Comment sommes-nous tombés dans ce pétrin ? J'y perds mon latin. Nous sommes faits pour souffrir. Voilà notre lot. Il faut que je me repose ou je vais tomber en pièces. J'ai les articulations frigorifiées. Comme ce désert est sinistre. Et où vas-tu comme ça ? Pas question que j'aille par là. Il y a trop de rochers. De ce côté, c'est plus facile. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a un village là-bas ? Ah non, pas de mots techniques. Quelle mission ? Qu'est-ce que tu me sens ? Oh, je t'ai assez vu. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille myope. Ne t'avise pas de me suivre en appelant au secours. Je t'abandonne à ton sort.
Roger Carrel, le doublage de dessins animés est votre grande spécialité. Il faut dire que l'incroyable souplesse de vos cordes vocales vous permet d'incarner n'importe quel type de personnage. Vous prêtez votre voix à Maestro dans la série Il était une fois l'homme. Vous doublez Jiminy Cricket dans Pinocchio, Bernard dans Bernard et Bianca, K.A. dans Le Livre de la Jungle, Fred Pierre à Feu, Mister Magoo ou encore Capitaine Caverne. Qu'est-ce qui est le plus facile, doubler un film avec acteur réel ou un dessin animé ? Et s'agit-il de deux exercices très différents ?
C'est pas très très différent, si vous voulez, mais quand on double un acteur réel, étant nous-mêmes acteurs, on essaie de ne pas le trahir. C'est-à-dire qu'il faut surtout oublier ce qu'on sait faire, nous, et essayer de faire rentrer dans les marques totalement de ce que l'acteur a fait. Moi, je me suis entendu doubler. J'ai tourné en Roumanie, puis un jour, j'avais mis ma télé dans la chambre d'hôtel, et je me suis entendu dans Arsène Lupin, notamment, et c'est un acteur qui n'avait pas du tout ma voix, et il y avait Vire le jeu. Dans le film aussi, ça m'a fait rire, parce que lui, il avait une voix très grave, Vire le jeu, c'était vraiment une voix là. Il était doublé par un acteur roumain qui avait une voix très haute. Alors, ça me faisait drôle de voir mon petit Vire le jeu avec une voix très aiguë. Non, mais souvent, c'est vous, même peut-être qu'il interprétait très bien en roumain, je ne sais pas. Mais nous, ce qu'on essaie toujours, c'est d'être pile, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est essayer de redonner ce qu'a voulu faire l'acteur. C'est ça le plus difficile, en fin de compte. C'est d'essayer d'oublier, puis de faire bien écouter comme il l'a fait, comme il l'a senti, comme il a voulu le donner. C'est ça, c'est un travail d'humilité, le doublage.
Tes paupières deviennent lourdes, tu as de plus en plus sommeil,
Oui, tu n'es plus un chat, mais une madeleine.
Qu'est-ce que tu racontes?
Oh, tu m'as fait peur. Tu devrais avoir une clochette.
Mais qu'est-ce que tu fabriques?
Oh, j'apprenais au chat à dire l'heure. Ça ne se voit pas. Montre à Willy que t'as tout compris.
Avoue que tu l'hypnotisais.
Bon, d'accord, on s'est fait remarquer. J'aide le chat à essayer d'arrêter de fumer.
Et voici le Muppet Show.
On peut lever le rideau.
Maman, j'ai peur.
Il m'attend que la fête commence.
Sur le plus illustre ici, fantastique ici, super chaud ici.
Captivant.
Captivant. To the Batmobile. Let's go.
Sullivan. Captivant, le magazine de la bande dessinée, vous propose ce soir une émission spéciale avec un invité exceptionnel, le grand acteur Roger Carrel, la voix du personnage de Goscinny et Uderzo Astérix. Roger, vous n'êtes pas le premier à avoir incarné Astérix. Un acteur vous a précédé. Savez-vous qui ?
Qui a dû le faire avant ? Je pense que c'est peut-être Guy Pierrot. Voilà. Il me semble que Guy Pierrot avait dû le faire avec Albert Augier. Je me semble qu'ils avaient dû faire cette première mouture. Oui, il me semble bien que c'est Guy.
Oui, c'était effectivement Guy Pierrot, la voix de Bugs Bunny. En ce qui vous concerne, c'est en 1967 que vous prêtez pour la première fois votre voix à Astérix, dans un programme télé de Pierre Tchernia, de Romain Angoul, et dans le premier long-métrage en dessin animé tiré des aventures d'Astérix. Quand et comment avez-vous débuté dans le rôle d'Astérix ?
Eh bien, ça s'est fait avec Goscinny et Uderzo, qui m'ont demandé de le faire, de venir vraiment essayer. Voilà, ils voulaient trouver une voix qui soit le petit, la voix d'un petit titi un peu parisien, un peu comme ça, que ça sonne bien au petit français surtout. Le petit français râleur, le petit français comme ça bagarreur, mais en même temps, il fallait trouver un personnage qui est quand même qui a la sympathie du public. Donc on a essayé plusieurs choses, mais c'est surtout celle-là qui lui plaisait. C'est celle qui plaisait le plus à Goscinny et à Uderzo, et donc on a gardé celle-là. Elle continue d'ailleurs, encore, il n'y a aucun problème.
Rapporte, Idéfix. Allez, mon chien, rapporte. Là. Je vais apprendre à rapporter des menhirs, Astérix. Comme ça, il pourra m'aider dans mon travail.
Tu sais, Obélix, ce n'est pas que je mette en doute l'intelligence d'Idéfix, mais je me demande quelquefois s'il n'est pas un peu petit pour tes menhirs.
Celui qui vient de parler avec tant de sagesse n'est autre qu'Astérix, le meilleur guerrier du village. Le célèbre Astérix, dont les aventures en vente dans les meilleures librairies, ont été traduites dans toutes les langues.
Salute! Guten Tag!
Hello! Hi! Konnichiwa! Glaucio! Skopulovko! Harmonish! Kokoriko!
Roger Carrel, vos partenaires ont changé depuis que vous êtes la voix d'Astérix. Au début, Obélix était incarné par le grand Jacques Morel, puis par Pierre Tornade, à son tour remplacé pour Astérix et les Vikings, sorti en 2006. Vos jeunes partenaires vous demandent-ils des conseils sur la façon d'incarner leur propre personnage ?
Non, parce que maintenant, la technique étant différente, on enregistre presque seul, comme beaucoup pour les films dessins animés américains. On est presque tout seul. Là encore, j'ai vu très peu Obélix. Bon, on sait que notre petit Tornade, on s'est bien dépensé avec Uderzo pour essayer de le décider, mais il a dit maintenant, non, je suis fatigué, j'ai du mal avec mes yeux à lire les trucs, la bande, je vais vous retarder. Il n'a pas voulu, pourtant, je l'assure, avec Uderzo, là, parce que Uderzo tenait à ce que Tornade le fasse. Et puis, effectivement, on a fini par le remplacer puisqu'il ne voulait pas le faire, mais j'ai peu vu mon partenaire. En fin de compte, maintenant, parce que je vous dis, tous les grands dessins animés américains maintenant, on est seul. Même Messis P.O. Quand je fais les Guerres des Étoiles, la suite des Guerres des Étoiles, eh bien, je suis tout seul. Je le fais tout seul. Je ne sais pas où sont mes partenaires. Ils viennent un autre jour. J'avais même dans Robot, je croyais revoir Rochefort. On est passé tellement d'années ensemble. J'ai dit, chouette, je vais voir Nono. Et puis, il l'a fait tout seul et moi tout seul. Donc, on ne s'est pas revu.
J'ai lu que vous étiez aussi la voix d'Idéfix. Est-ce exact ?
Oui, 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 mais ça, vous savez, la voix d'idée fixe, elle vient de loin. Elle vient de très loin, elle vient de mon adorable amie Lynn Renaud, l'a précisé l'autre jour d'ailleurs, parce qu'un jour j'étais en train d'enregistrer une radio, et il y a bien, bien longtemps, et M. Loulou Gasté, que je ne connaissais pas, est venu sur le plateau me chercher pour me dire, monsieur, il paraît que vous aboyez, vous savez aboyer. Alors je dis oui, mais, voilà, parce qu'on a un petit problème. Donc cette histoire de petit problème, c'était tout simple, c'est que Lynn Renaud enregistrait Le Chien dans la vitrine, elle revenait des États-Unis. Et elle enregistrait le chien avec une quarantaine de musiciens à côté, et le garçon qui devait faire le chien n'était pas là. Alors je suis donc allé dans le studio voisin, et là, avec le chef d'orchestre qui m'a fait signe, et tous les copains étaient derrière la vitre venir pour venir rigoler, et donc il y avait Lynn qui chantait « Combien pour ce chien dans la vitrine ?» Combien pour ce chien jaune et blanc, montrez. Et Lynn le rappelle toujours à chaque fois. Vous savez que le premier disque que Roger Carrel a fait, c'est avec moi. Alors ce qui fait que quand on a eu besoin d'idées fixes, Uderzo m'a dit oh « ben, t'as déjà fait le chien, alors tu vas me le faire, tu vas faire maintenant », ce qui fait que ce petit personnage, maintenant il est fixe, c'est toujours là.
En 1976, dans les 12 travaux d'Astérix, vous n'incarniez pas seulement Astérix, mais aussi Caius Pupus, vous en souvenez-vous?
Oui, Pupus, ça oui, je m'en souviens très bien. T'es un personnage intéressant, Pupus, il m'a bien plu. Oh, c'est pas un nerveux, hein, Pupus, c'était un gars très calme, mais ça m'a fait grand plaisir quand même.
Pour l'épreuve suivante, il vous faudra manger tout le repas que vous a préparé Mannequin Pix, le cuisinier des titans. Aucun mortel n'est arrivé jusqu'au bout de ses repas. Il vous faudra pourtant l'achever jusqu'à la dernière miette. Bon appétit.
Oh, enfin une épreuve intéressante. Elle est pour moi, hein?
C'est indiscutable.
Sur la Gaule et les Gaulois. Au temps lointain où les Romains avaient envahi la Gaule, il ne resta qu'un seul village qui ne connut pas l'esclavage.
Marc Dacier. Nous recevons ce soir un grand acteur, Roger Carrel, qui a prêté sa voix à de nombreux personnages de bande dessinée, notamment Astérix, dans des dessins animés de télévision ou de cinéma. Roger, dans les années 60, vous avez également joué dans des disques micro-sillons adaptés d'albums de BD. Ces disques avaient-ils un gros succès à l'époque ?
Oui, c'est vrai que ça a bien fonctionné. Je dois dire, je dois reconnaître que c'est vrai, ces disques-là, Astérix. Mais Astérix a toujours bien marché, en fin de compte. On s'aperçoit que, et ça n'est pas uniquement en Chauvin, ça marche dans le monde entier. C'est que, je veux dire que Uderzo et Goscinny ont eu beaucoup de chance, car c'est leur talent, bien sûr. Mais que les gens aient accepté des histoires françaises, qui soient vraiment la Gaule, vous voyez. Que vraiment, même que ça intéresse les Italiens, par exemple, eux qui sont plutôt romains, hein, il n'y a pas de problème.
Vous avez incarné Hubert de la pâte feuilletée dans les disques tirés de la série Oumpapa. Les auteurs de la BD d'origine, Goscinny et Uderzo, étaient-ils présents pendant ces enregistrements ?
Oui, souvent Goscinny venait. Souvent Goscinny venait, oui. Oh, Hubert de la pâte feuilletée, c'est un souvenir très... Avec Rochefort, d'ailleurs. Oui, oui. Oh, pas sur la tête. Je me souviens qu'il était toujours comme ça, il recevait des coups. Pas sur la tête. Et il mangeait du pemmican, je crois me souvenir.
Votre jeu collait parfaitement avec l'aspect graphique qu'Albert Uderzo donnait au personnage. La lecture des albums de BD vous servait-elle pour travailler votre rôle ?
Oui, ah ben toujours le graphisme. C'est vrai que c'est très important de voir le dessin pour trouver la voix. On ne peut pas... moi, Hubert n'a pas vu... Dès que je l'ai vu, j'ai vu que c'est un garçon précieux, comme ça, que c'est, automatiquement, c'est un personnage un peu mondain, aucun problème. Mais c'est, et ça vous donne immédiatement... c'est vrai que quand je vois un dessin, on me dirait, mets une voix dessus, même si, bah, si je n'ai pas à le faire, je crois que je chercherais une voix qui collerait dessus. C'est sûr. Mais ça, c'est instinctif.
De pieds plats, écoute, que désigner un champion ? Oum papa se battre avec lui, sans armes. Tribu du vainqueur aura gagné guerre.
Par moi, parce que j'ai 6 ans.
En garde, à feu, coyote, oum papa.
En garde, ver de terre, petit front.
Hop, allez, hop, et voilà, hop.
Qu'est-ce que t'as à t'agiter comme ça, double scale?
Mais je me souffle les muscles, ami. Je suis très fort en boxe française. L'important est de ne jamais se découvrir, l'ami.
Ah bon?
Et voilà, hop.
Tiens, voilà pour toi. Oum, papa.
Eh bien, tu vois, frère, tu vois, tu t'étais découvert. Je te l'avais bien dit qu'il ne fallait jamais se découvrir.
Oh, mon frère a la langue trop mouvante.
Oh non, papa, pas sur la tête.
Et pourtant, tête à toi couverte.
J'ai eu la chance de rencontrer José Arthur, ce grand homme de radio, à l'époque où il animait encore le Pop Club sur France Inter. Il m'a dit que sa participation au disque adapté de Barbe Rouge, Le Démon des Caraïbes, était l'un des meilleurs souvenirs de sa vie de saltimbanque. Il jouait le rôle du traître Morales, vous étiez Baba, le géant noir. Comme José Arthur, repensez-vous avec nostalgie à cette époque. Était-ce agréable d'enregistrer ces micro-sillons ?
Ah oui, mais vous savez, on est, tous ces micro-sillons que je garde précieusement, parce que je les ai encore, et je dois dire que c'était... Quand on se réunissait, on savait qu'on allait arriver à 9h pour enregistrer ces disques. D'abord, retrouver, il faut bien comprendre que dans tous les domaines, retrouver la bande de copains, c'est toujours agréable. Puis un garçon comme José, on sait qu'on va... Toute la journée, ça va être la joie, le bonheur, parce que c'est un homme qui a un esprit tellement extraordinaire et fulgurant, c'était un bonheur. Lui faire son personnage, et moi mon baba, sans aucun problème. J'avais aucun problème pour mon baba, là. J'étais content de le faire.
Arrêtez plus diable, la tempête se calme. Eh bien, Morales, l'équipage est-il rassuré maintenant ?
Un peu, capitaine. Les gars disent que puisque nous sommes encore vivants, c'est que vous avez sûrement signé un pacte avec le démon.
Ils n'ont peut-être pas tort. Corne de bouc ! À quoi penses-tu, Baba ? Redresse la barre ! Serre au vent, mon lit sauvage !
Baba, pas aimer le brouillard. Baba, pas voir où il va, alors.
Bah garde ton cap, Baba.
Oui.
Tu verras bientôt le port de Santa Marta. Un joli petit port où nous allons faire une joyeuse escale. Des caisses pleines d'or et d'argent, appartenant à sa très catholique majesté, le roi de toutes les Espagnes, nous attendent là-bas. Tu entends, Baba ? Tu seras riche, très riche.
Oui, si Baba toujours vivant, alors.
Baba, encore des idées noires.
Ah, satané triple patte, tu me feras toujours rire. Baba, les idées noires.
Baba, pas comprendre pourquoi capitaine trouvait ça drôle, alors.
Roger Carrel, vous avez écrit il y a quelques années un livre autobiographique intitulé « J'avoue que j'ai bien ri ». Nos auditeurs auront été charmés, comme nous, par votre bonne humeur. Il est rafraîchissant de constater que vous adorez toujours votre métier. Vous amusez-vous toujours autant ?
Toujours autant. Vous voyez, souvent on me dit toujours, ah ben vous avez l'air toujours comme ça, très gai. C'est vrai, parce que souvent il m'est arrivé une ou deux fois de rencontrer des gens dans la rue, notamment une dame un matin, à 9h je partais de chez moi et j'allais prendre mon métro, et elle me dit, vous savez, excusez-moi monsieur Carrel, je vous rencontre tous les matins, c'est un bonheur pour moi, vous chantez tout le temps, et je ne m'étais jamais aperçu qu'en marchant, je chantais tout le temps. Et c'est vrai que je chante souvent. Les copains me le disent, tu sais que tu chantonnes tout le temps. Je dis, ah ben alors c'est une manie statique, c'est une addiction, je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas, ça ne me gêne pas, mais j'aime bien chanter, c'est vrai, tout le temps.
Roger Carrel, merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt peut-être.
C'est la fin de ce numéro exceptionnel de Captivant, réalisé par Christian. Bonsoir à toutes et à tous, et à la semaine prochaine. Thank you.